Vous êtes sur RTL.
Vous tentez. RTL Matin.
6 minutes pour trancher.
8h22, bonjour Nicole Bacharan.
Bonjour Yves.
Vous êtes politologue spécialiste des États-Unis. Bonjour Antoine Bondaz.
Bonjour.
Chercheur spécialiste de la Corée du Nord, auteur de Corée du Nord plongée au cœur d'un État totalitaire, paru aux éditions du Chêne. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints dans ce studio. L'image est forte, elle est spectaculaire, elle a forcément marqué. Un président américain en Corée du Nord, Donald Trump, rentre-t-il d'une certaine façon dans l'histoire? Antoine Bondaz.
Alors, il rentre effectivement dans l'histoire. C'est la première fois qu'un président américain se rend dans la DMZ, la zone démilitarisée en habit civil. C'est la première fois qu'il s'y rend avec un président sud-coréen. Et puis, c'est surtout la première fois qu'il rencontre un président nord-coréen, un leader nord-coréen. Et surtout qu'il traverse symboliquement la frontière pendant quelques secondes.
Qui sort gagnant de cette image, Nicole Bacharan?
Les deux, je pense. Les deux dans l'immédiat. Kim Jong-un a quand même obtenu, et c'est pas la première fois depuis que Trump est président, il a obtenu d'être reconnu comme un partenaire, un interlocuteur d'égal à égal avec le président des États-Unis, dit l'homme le plus puissant du monde, oui. Et c'est quand même ce que le Nord-Coréen cherchait depuis très longtemps. Donald Trump a des images fortes pour sa campagne, et comme il nous l'a dit avec la subtilité qu'il caractérise, c'est un jour très légendaire et c'est un jour très historique.
Mais est-ce que vous pensez que ça va aider le président américain dans sa campagne de réélection?
Dans l'immédiat, oui, mais la campagne, elle va être longue quand même. On regarde l'horizon.
Pardonnez-moi, je vous interromps, mais on dit habituellement que les Américains n'ont aucune curiosité pour l'actualité internationale. Là, on met un peu de nucléaire et d'exotisme dedans, ils ont tendu l'oreille.
Ils ont tendu l'oreille parce que, pardonnez-moi de le dire ainsi, oui, mais c'est quand même simple, cette image. Voilà, c'est la première fois, on se serre la main, on se parle, Donald Trump va partout répétant « personne ne l'a fait avant moi ». Si on regarde dans le détail, à part ce franchissement d'une petite zone en béton, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont été faites avant lui et qui ont échoué. Mais dans l'immédiat, il peut dire « voilà, moi j'ai résolu un problème que personne n'a su résoudre avant moi ». La campagne va être longue et donc il faut qu'il y ait quelque chose qui ressemble à un résultat, une petite signature sur un petit accord à un certain moment.
La question que certainement beaucoup de personnes se posent, c'est comment est-on passé en quelques mois et en quelques semaines de Kim Jong-un, petit homme fusée, chiot malade, enfin c'est la façon dont il le traitait,
voilà,
Rocketman, il y a moins de 2 ans et aujourd'hui Kim mon ami. Ça, il l'explique aux Américains, le président?
Il l'explique par ça. Propre grandeur, il n'y a pas beaucoup d'autres explications, c'est-à-dire que lui, Donald Trump, est seul capable de faire des choses tout à fait inédites. Et puis on remarque aussi que c'est quelqu'un dont les paroles pour lui-même ne signifient pas grand-chose. Quand vous promettez une destruction à la tribune des Nations Unies, quand même, la destruction complète, l'éradication d'un pays, ce qu'il promet entre-temps pratiquement dans les mêmes termes aux Iraniens, on a tendance à le prendre au sérieux dans le reste du monde. Or, finalement, non. Lui n'est pas forcément sérieux dans ce genre de choses. Maintenant, quand il vous dit que Kim Jong-un est un grand ami, qui lui écrit des lettres merveilleuses et qu'ils sont tombés amoureux, il ne faut peut-être pas trop le prendre au sérieux non plus.
Alors, Antoine Bondaz, en acceptant de franchir la frontière, Donald Trump fait aussi quelque chose que ses prédécesseurs, vous nous l'avez dit, avaient jusqu'ici refusé. Il contribue à flatter et à légitimer un homme qui est à la tête d'une dictature. Est-ce que c'est une erreur? Ou au contraire, vous estimez que c'est une nécessité pour finalement commencer à négocier la dénucléarisation?
Alors, c'est avant tout un pari. Le pari, c'est à peu près le même pari que font les Sud-Coréens. C'est que la diplomatie de sommet, une approche au plus haut niveau des États, pourrait permettre d'avancer enfin sur le dossier de la dénucléarisation.
On n'a même pas prononcé le mot pendant cette rencontre.
Alors, le mot a été indirectement prononcé à la fin, et puis aujourd'hui, ce matin, c'était extrêmement intéressant, les éditoriaux nord-coréens ont mentionné la dénucléarisation de la péninsule coréenne, le terme que les nord-coréens utilisent. Alors, à court terme, il n'y aura pas de dénucléarisation, il faut être extrêmement clair. Je pense que le pari peut être d'avoir un arrêt du programme nucléaire, c'est-à-dire que la Corée du Nord ne poursuive pas d'accroître ses capacités nucléaires et balistiques, et ça, ce serait déjà une réussite.
Alors, en revanche, vous nous dites que quand même cette rencontre fait avancer les choses, je vous comprends bien, même si
ça fait avancer les choses de façon extrêmement lente, mais ce qui a été obtenu hier, c'est la reprise des négociations au niveau des négociateurs. Et ça, c'est fondamental. Il faut bien avoir conscience que ce ne sont pas les dirigeants qui négocient un accord. Un accord, ça prend des mois de négociations, des dizaines de réunions, et là, enfin, on va avoir la reprise concrète de ces négociations.
Le monde est moins dangereux ce matin?
Le monde est en partie plus stable, peut-être, tant qu'il y a du dialogue, c'est important. Alors, souvent, on définit une menace par des capacités et des intentions. La Corée du Nord a des capacités qui s'accroissent, mais les intentions semblent plus, entre guillemets, calmes qu'auparavant. Tant qu'il y a un dialogue entre les États-Unis et la Corée du Nord, ce qui est important, c'est qu'en tout cas, il n'y aura pas de risque d'escalade ou le risque d'un incident puisse se transformer en conflit ouvert, comme c'était le cas, par exemple, il y a quelques mois, en 2017.
Nicole Bacharan ?
Oui, c'est vrai que depuis quelques mois, il n'y a plus d'essais nucléaires, il n'y a plus nord-coréens, il n'y a plus d'engins qui aient été lancés, à part des missiles à courte portée. Mais ce vers quoi on semble se diriger, si les négociations effectivement ont lieu, si Kim Jong-un n'élimine pas physiquement l'ensemble de son équipe de négociations, j'en ris mais c'est pas drôle du tout, ce serait un gel, un statu quo, un gel des capacités nucléaires, chose qui a été tentée par Bill Clinton, par George W. Bush, par Barack Obama, et chaque fois qu'il y a eu un accord pour un gel, cet accord n'a pas tenu, cet accord a été violé, disons que les Nord-Coréens ont triché. Donc on ne va pas se plaindre que les choses soient un peu plus calmes, mais que ça aboutisse à un gel, même juste à un gel durable, rien n'est moins sûr. Et ce qui me semble à peu près certain, c'est que de facto les Américains acceptent de vivre avec une Corée du Nord avec l'arme nucléaire, chose qui a été refusée à l'Iran avec un accord dont Donald Trump a dit que c'était le pire accord au monde. Donc la politique internationale de Donald Trump est quand même difficilement crédible.
Elle est même incompréhensible, si ce n'est si on parle de son point de vue, je veux dire, on a l'impression de politique intérieure.
C'est-à-dire oui.
Mais est-ce que cet homme peut faire avancer les choses ? Il nous perturbe en permanence, puisqu'il est en dehors de toutes les réactions traditionnelles, normales de la diplomatie et de ce qu'on apprend dans les écoles. Bien. Alors, une fois qu'on a cessé d'être stupéfait par ce qu'il fait, choqué parfois, est-ce qu'il peut être un acteur? Hier, il s'est comporté comme une forme de gendarme du monde et on a l'impression qu'on fait quand même un demi-pas en avant, qu'on le veuille ou non.
Disons qu'on ne sait jamais. Peut-être peut-il y avoir une petite avancée avec la Corée du Nord. Aujourd'hui, la Corée du Nord a tout son arsenal et les Américains maintiennent toutes leurs sanctions. Oui. Il y a eu un petit moment, moi, qui m'a quand même beaucoup choqué dans cette brève rencontre, c'est qu'en franchissant cette frontière au milieu de tous ces gardes, de tout cet aspect surarmé de cette frontière, Donald Trump a quand même dit « Ah ça, c'est une vraie frontière. Oui. On ne passe pas au travers. »
C'est bien ça.
Or, la frontière de la Corée du Nord, c'est une prison.
Bien sûr.
C'est une prison pour les gens du Nord comme pour les gens du Sud. Donc, Donald Trump a une manière de miner l'ordre démocratique international en démolissant toutes les valeurs de liberté, de droits de l'homme, de simple civilité qui ont un rôle, malgré tout, dans les relations internationales, si on veut les apaiser un tout petit peu, qui est très dangereux. Mais si jamais, avec quelqu'un d'aussi étrange pour nous que Kim Jong-un, il arrive à faire avancer quelque chose, on sera content quand même.
Antoine Bondas, que dit-on ce matin en Corée du Nord ? Vous évoquez les éditoriaux, enfin voilà, comment est perçu ce qui s'est passé hier chez les Nord-Coréens et puis ensuite chez les Sud-Coréens, bien sûr.
L'important, c'est de contextualiser cette rencontre et d'en faire avant tout une invitation de Kim Jong-un par Donald Trump. C'est-à-dire donner l'idée que c'est vraiment le président Trump qui a insisté pour vouloir rencontrer le dirigeant nord-coréen, ce qui montre la stature internationale de Kim Jong-un et ce qui crédibilise en réalité ce qu'on entend à Pyongyang déjà depuis plusieurs mois. L'argument, il est extrêmement clair. Les armes nucléaires ont apporté la stabilité et le prestige, le respect international à la Corée du Nord.
Oui.
Et en fait, cet argument nord-coréen, il est en train de se concrétiser.
Oui, bien sûr.
Ce qui fait qu'une dénucléarisation est extrêmement peu probable. Et l'objectif plus réaliste, ce serait premièrement qu'il y ait une stabilité plus grande, c'est-à-dire éviter à tout prix un incident militaire qui pourrait escalader et se transformer en conflit ouvert. Et deuxièmement, essayer de limiter les capacités nucléaires et balistiques nord-coréennes.
Est-il concevable que le président nord-coréen se rende aux États-Unis à l'invitation de Donald Trump ?
Il y aurait des grandes questions en termes de sécurité, hein, en termes de protocole et en termes de sécurité pour le dirigeant nord-coréen. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Ce qui est également un scénario imaginable, c'est une visite de Kim Jong-un à l'ONU pour l'Assemblée générale qui commencera fin septembre, début octobre de cette année. Il y a déjà eu des rumeurs l'année dernière, ça pourrait se concrétiser. Mais encore une fois, il y a vraiment des questions de sécurité qui peuvent se poser.
Imaginez les leçons que peut en tirer l'Iran.
Oui.
C'est vrai que quand on entend l'argument iranien disant, Donald Trump disait que c'est un accord épouvantable, qu'il fallait en sortir, et on reproche aux Iraniens de ne plus le respecter. Comment se faire respecter ? Avoir l'arme nucléaire semble être une route qui, moi, ne me satisfait pas beaucoup, mais qui est réelle.
Merci beaucoup, Nicole Bacharan. Merci, Antoine Bondaz. Bonne journée à tous les deux. On continue de débattre et de vous informer, bien entendu, sur RTL. Et dans quelques instants, ce sera les essentiels de l'actualité.